Conférence privée par le Père Philippe à Saint-Joseph le 2 juin 1987.
À ce moment-là, il faut comprendre que Marie est au-delà de la vie. Lucia, j'ai eu la conférence d'un père maître dont j'avais entendu parler par le père de haut, qui était le père maître. C'était quelque chose. J'ai dû raconter ce petit détail à certains. Voyez, transposé maintenant. C'était le bon père à l'eau. Important pour nous et Marianne, d'abord de lire l'encyclique. Il faut la lire personnellement. C'est pas suffisant d'avoir entendu au réfectoire. Parce qu'au réfectoire, toujours, on entend un mot sur deux. C'est ce qui se passe. Ça peut pas être autrement, du reste. Parce qu'on mange et on écoute. On écoute et on mange. Alors ça fait un mot sur deux. Et on arrive à suivre à peu près, mais c'est pas la même chose que de lire à sa table de travail et puis d'essayer de comprendre. Parce que c'est tellement, et le Saint-Père le dit, c'est tellement les intentions de son cœur. Une méditation. Il a porté ça dans son cœur. Il faut que, pour nous, cette préparation à la Pentecôte, cette année-ci, soit particulièrement fervente. Vous savez bien, les dispositions, c'est très important. Et pour nous, en plus de ça, toujours de l'ascension à la Pentecôte. C'est un temps que nous aimons beaucoup. C'est le temps des mutations. On passe de la chrysalide au papillon. Pour certains, parce que la prise d'habit, c'est bien ça, on passe de la chrysalide au papillon. Un papillon qui ne vole pas encore très haut, puisque c'est on entre noviciat, mais c'est quand même un petit peu ça. Tant de mutations, tant de décisions. La première profession. Et la première profession est toujours impressionnante parce qu'elle est la première. Et puis le temps de la profession perpétuelle. C'est trois points qui se passent à Paris. Il apparaît à cause, je vous l'ai déjà dit, à cause de Marthe. C'est Marthe qui nous protège du haut du ciel. Et c'est pour ça que le rendez-vous est apparu. Parce que Marthe veut qu'il y ait ce lien avec Marie-Monia. Alors tant qu'on pourra, je ne dis pas qu'on pourra le faire tout le temps. Parce que vous voyez, l'atmosphère n'est pas très commode, alors il faut faire un tout petit peu attention. Bah, du côté des charismatiques, c'est Alléluia, c'est merveilleux. Donc il n'y a pas de temps. Il y a d'autres aspects. Il faut essayer de rien casser à la basilique. Et donc, faire attention aux meubles. Il y a tout le reste. Être très exact pour que tout se passe bien. Mais il faut avant tout faire ça en pèlerinage. C'est un pèlerinage que nous faisons. Un pèlerinage particulier, puisque pour beaucoup, il y a les familles et les amis. Et c'est aussi pour ça que c'est un pèlerinage. Parce que quand les familles et les amis viennent ici, ils voient un tout petit peu la communauté, mais pas beaucoup. Tandis que là-bas, on essaie, avec un peu de souplesse, de faire que notre vie continue. On avait essayé la première année, et j'ai bien envie de recommencer ça, de faire que le matin, autant que possible, on le vive un peu en prière, en silence. C'est difficile d'imposer le silence aux familles et aux amis, mais si on peut, l'après-midi, il y a une grande détente, avec le repas. Mais le matin, si on peut le vivre un peu plus en prière, ça ne fait que le jour de la Pentecôte et le lundi. Vous verrez, ça, c'est pas une obligation, mais c'est un peu un souhait, vous voyez, qu'on doit un peu porter chacun, parce que pour beaucoup d'entre vous, c'est la retraite qui continue quand même. Je sais très bien que cette année-ci, les professions perpétuelles auront lieu le dimanche, je sais pas, c'est le jour de la Pentecôte. Qu'on maintienne autant que possible ce point de vue d'une retraite qui se termine dans un pèlerinage Et que ce n'est pas une détente parelmaniale, c'est un lieu de prière. Et c'est un lieu de prière pour tous. On n'a pas à crier. On a à prier. Et je crois que c'est beaucoup. Vous voyez, si on était tous décidés un peu à ça, on mettrait assez vite les familles dans ce climat. Et c'est bon pour nos familles, nos amis, de comprendre que la Pentecôte, c'est une grande fête d'Église. C'est la fête de l'Église, au sens très très fort. Et donc, pour nous, c'est une grâce d'Église dans le cœur de Jésus, dans le cœur blessé de Jésus. Alors, il faut que cette retraite qui commence ici, évidemment, il y aura le passage de notre cardinal jeudi. Je serai là, je partirai à Rimont, mais je reviendrai parce que je crois que c'est mieux. C'est pas du tout parce que il serait pas bien reçu. Non, il serait très bien reçu sans moi, j'en suis sûr, mais c'est par rapport à lui. Faire un petit acte de révérence, puisque c'est notre supérieur. Faut pas l'oublier. Alors tenez-vous bien. Parce que c'est notre supérieur ecclésiastique. On lui a demandé. Alors, c'est Monseigneur Bertrand, comme disent les trappistines, le père immédiat. Mais le vrai père, c'est le cardinal. C'est lui. S'il y avait une visite, c'est lui qui ferait la visite. Il peut en faire. C'est pas souhaitable, mais il peut en faire. Oui, je dis que c'est pas souhaitable parce que c'est vrai, c'est toujours très difficile quand une visite de quelqu'un qui ne connaît pas nécessairement nos manières de vivre. C'est des tas de choses qu'on pourrait pas modifier. Et on voit que le faire progressivement et on tend vers une sainteté de plus en plus intérieure. Mais il faut recevoir le cardinal avec beaucoup d'amour. Ça, c'est sûr. Si permis-vous, il y en avait qui voulaient le voir. Il n'y a pas pour vous voir, vous voyez, c'est pas une visite canonique, c'est amical. Demandez la permission au prieur, je crois que c'est mieux. Je remarque avec les frères, parce que régulièrement, on pourrait le voir sans demander de permission. C'est comme le pape. Tout le monde peut écrire aux impères. Mais comment on sait que la lettre n'ira pas jusqu'au bout? Mais tout le monde peut écrire aux impères. Tout religieux peut écrire directement aux impères. Tout religieux peut écrire aux supérieurs ecclésiastiques. Direct. Ici, c'est pas Monseigneur le Bourgeois, c'est le cardinal de Courtrai. Le cardinal de Courtrai a un droit de visite. C'est-à-dire, si un frère, par exemple, écrivait, il y a un scandale dans la communauté, vraiment, c'est scandaleux, je sais pas, on a des carottes tous les jours, c'est des choses comme ça. C'est un scandale. Venez faire une visite, je vous en prie. Il pourrait se servir de ça pour faire une visite. Si un frère demande, il faut toujours se rappeler ça, parce que c'est important de savoir qui est notre supérieur ecclésiastique, qui est pour nous le représentant du Saint-Père, du Père amer, puisque le Père amer représente le Pape. Gardien de contrée représente le Père amer. Vous voyez? Et je ne suis pas soumis au Père de contrée, mais au Père amer. Puisque c'est les constitutions. On est soumis aux constitutions. Mais vous avez un droit de rappel. Je dis ça, c'est pour que vous compreniez qui est le gardien de contrée pour vous. Quand même le savoir. Alors, si vous vous éprouvez le besoin de lui parler, demandez quand même au père prieur la permission. Je crois que c'est mieux. Il ne vous empêchera pas, mais il vous dira, faites un petit peu attention à ce que vous dites. Ce qui n'empêche absolument pas d'avoir une liberté absolue. Droit de conseil, vous dire, faites attention, ne dites pas trop, mais c'est une fête pour nous. Donc au milieu de la retraite, il y a la fête d'aujourd'hui, et puis il y a la fête de jeudi, et c'est très bien. Parce que c'est de recevoir celui qui pour nous est comme l'envoyé du Seigneur. Et puis vivre alors, très nettement, ce sépare de la Pentecôte, qui nous sépare de la prise d'habit et des professions. Ils sont nombreux. Il faut que nous les portions tous et que ce soit pour nous l'occasion, si nous ne faisons pas de profession personnelle et si nous avons déjà l'habit, de reprendre le sens de l'habit. Parce que ça se perd. On est habitué. C'est effrayant l'habitude. Je dis pas qu'il faut de temps en temps quitter l'habit pour reprendre. Non, mais il y a les prises d'habit qui sont des anniversaires. Et les prises d'habit doivent nous remettre dans cette grâce particulière d'être revêtus de l'habit de Marie. Et cette grâce de la profession. Alors, ça, c'est important pour nous. Toute la communauté est un peu mobilisée. Mobiliser pour que cette fête de la Pentecôte, cette année-ci, et le lundi de Pentecôte, cette année-ci, soit d'une très grande ferveur, en union avec le pape, en union avec toute l'Église, en union avec toute l'humanité. C'est Marie qui porte tout comme mère des hommes. Nous devons lui demander, et si nous avons pas mal de difficultés, ou que nous nous reposons des petites questions, des grosses questions, c'est auprès de Marie qu'on doit se poser, toujours. Et vous habituer de ne jamais prendre une décision en dehors d'elle. C'est peut-être ce qu'on doit promettre pour l'année mariale. Je suis sûr que c'est une des choses qui touche le plus le cœur de Marie. De lui promettre ça. Vous voyez, c'est une application de notre consécration. Et une application très concrète. Ne jamais demander une permission sans la demander à Marie. D'abord, ne jamais prendre une décision dans notre vie sans avoir demandé conseil à Marie. Sans être venu auprès d'elle. Ça, nous permet, vous voyez, d'être très unis avec elle dans l'ordre de la coopération. Et c'est une des choses d'un cœur maternel qu'on prend très bien. Vous voyez, une des choses les plus dures pour un cœur maternel, vous avez déjà eu des confidences, vos mères, c'est de voir que quand l'enfant grandit, il n'a plus la même confiance. Et nous avons peut-être connu ça. Nous avons peut-être à un moment donné renvoyé promener sans voir toutes les souffrances qu'on causait à notre mère. Parce que le cœur d'une mère est particulièrement vulnérable à l'égard de ses enfants. Parce qu'elle les aime. Elle les aime plus qu'elle ne s'aime. Ça, être mère, c'est aimer le petit plus qu'on ne s'aime, prêt à donner sa vie pour lui, prêt à tout offrir, tout donner pour lui. Une vraie mère est toujours comme ça. Alors quand l'enfant grandit et qu'il prend un peu cette liberté auprès de sa mère et quelquefois continue de la prendre largement et qu'il sait qu'il sort y a des intermédiaires. L'enfant n'est plus tout le temps avec sa mère. Mais la mère forme quand même l'essentiel. Et quand l'enfant grandit, quant à son intelligence, il se sépare de plus en plus. Quand il est capable de faire des études supérieures, il se sépare de plus en plus. C'est curieux. L'intelligence se développant, il y a une séparation plus grande. Normalement, quand il choisit sa vocation, ou la vie monastique, ou le mariage, il quitte. Et il vient faire des visites à sa mère. Dans l'ordre surnaturel, c'est l'inverse. Au début, on fait des visites. Les exercices spirituels, l'oraison du matin, l'oraison du soir, puis petit à petit, on comprend que ces visites, c'est pas suffisant. Il faut que ça prenne tout. Il faut que ça s'empare de tout. Alors, c'est la confiance.
Ceux qui reçoivent cette parole comme une parole qui
qui réalise dans notre cœur un cœur d'enfant. Alors Marie, comme elle a éduqué les apôtres pendant cette retraite que nous vivons maintenant, de l'ascension à la Pentecôte, il me semble qu'il y a deux grands aspects dans cette retraite qui peuvent se subdiviser, n'est-ce pas, pour chacun d'entre nous, selon des modalités différentes. Je crois que ce qui domine pendant cette retraite, cette première retraite de Marie, c'est la parole de Jésus. Je vous enverrai un paraclet, un autre paraclet. Je vous enverrai. C'est Jésus personnellement qui promet à toute l'Église, aux apôtres et à Marie d'envoyer un paraclet. C'est une promesse. Prophétie reçue dans la vertu d'espérance en Marie. C'est très très beau de voir que l'espérance de Marie, je crois, dans sa vie de pointe, c'est la promesse du paraclet faite par Jésus. Je crois bien son espérance en ce qu'elle a de plus. Plus actuel, vous voyez. Je devrais prêcher pendant les vacances une retraite sur l'espérance. Là, je pense beaucoup. Et ça me frappe beaucoup. L'espérance de Marie, actuée par cette parole, je vous enverrai un paraclet. Et c'est vrai, c'est ça l'espérance ultime. C'est l'Esprit Saint qui nous est promis. Et parce qu'il nous est promis, il nous est déjà donné. Vous savez bien ce que dit Jésus. Quand vous priez, comprenez que ce que vous demandez vous est déjà donné. C'est ça l'espérance. Ça, c'est la prière de l'espérance. Quand vous regardez que la chose promise est lointaine, ça prouve que l'espérance n'est pas présente. Parce que l'espérance est une vertu théologale. Donc elle brûle le temps, comme toutes les vertus théologales. Puisque elle est théologale, donc elle a quelque chose de l'éternité. Alors elle brûle le temps, et qui fait que déjà c'est réalisé. Et Marie considérait que déjà l'Esprit Saint lui était donné, mais qu'il devait être encore beaucoup plus donné. L'espérance de Marie à l'égard du mystère de l'Esprit Saint, sa contemplation, s'appuyant sur sa vertu théologale d'espérance, sa contemplation à l'égard de l'Esprit Saint. On contemple l'Esprit Saint, on l'aime et on le contemple. Et il est lumineux. Et il est de feu. Et j'allais dire, il est de sang. L'Esprit Saint nous est donné à travers le sang de Jésus. Et il est le feu. Et il est la lumière. C'est un amour lumineux. C'est un amour lumineux et brûlant. La contemplation de Marie à l'égard du paraclet, en s'appuyant entièrement sur la parole de Jésus, je vous enverrai le paraclet. Nous ne vivons pas assez de cette parole. Et c'est le moment liturgique, avec une grâce particulière, de vivre de cette parole. Vous voyez, pendant cette retraite, il faut que cette parole soit constamment répétée. voir le paraclet, puisque ce sont ceux qui sont mus par l'Esprit Saint qui sont enfants de Dieu. Tant qu'on n'est pas mu par l'Esprit Saint, on ne vit pas sa vie d'enfant bien-aimé. On ne vit pas sa vie chrétienne de l'intérieur, on la vit de l'extérieur. On la vit avec des poteaux indicateurs. C'est très bien les poteaux indicateurs pour les étrangers. Mais pour ceux qui sont de l'endroit, les poteaux indicateurs, ça ne signifie plus rien du tout. Eh bien, l'Esprit Saint nous fait vivre dans le mystère de la très sainte Trinité. Les gémissements de l'Esprit Saint, les gémissements de l'Esprit Saint. Pour nous faire naître à cette vie divine, il faut que la parole de Jésus s'empare de notre vertu d'espérance. Voyez, nous exerçons beaucoup la foi, nous exerçons beaucoup la charité, nous exerçons très peu l'espérance. Combien d'actes d'espérance faites-vous par jour?
Ce temps de vous renouveler pleinement dans la vertu d'espérance avec
espérance. Elle est notre espérance parce qu'elle est la vie de cette parole divine de Jésus. Et que le don de l'Esprit Saint lui est fait de façon plénière. Alors l'autre parole, alors elle vient de nous, c'est l'Église. Et c'est toujours très beau de voir ce que Jésus nous demande et ce que l'Église nous demande. Je crois que de façon générale, dans toutes les époques liturgiques, on doit tout le temps être attentif à ça. L'Église, elle nous dit « Veni, Pater Pauperum ». Viens, Père des pauvres. Il y a un parallélisme entre les deux. Mais une prière vient de l'Église, c'est-à-dire de nous. Et l'autre est une promesse qui vient du Christ. Et les deux se rencontrent pour que nous vivions parfaitement de la parole de Jésus. Il faut que nous entrions dans cette pauvreté. Viens, Père des pauvres. C'est curieux, comme l'Esprit Saint est attiré par la pauvreté. Pauvreté intérieure, pauvreté spirituelle, pauvreté divine, la béatitude des pauvres, la pauvreté qui vient de l'Esprit Saint, c'est sûr, et qui appelle l'Esprit Saint, et qui permet justement à la parole de Jésus, je vous enverrai le paraclet, de pouvoir se réaliser vraiment et pleinement. Je crois que si on n'est pas pauvre, l'Esprit Saint ne peut pas venir. Il n'y a plus de place pour lui dans notre cœur. Pour qu'il y ait une place pour l'Esprit Saint et la place normale qu'on doit lui donner, il faut qu'on soit pauvre. L'Esprit Saint est donné aux pauvres. Alors voyez la pauvreté, hein, et elle prend des aspects très divers. Chaque année, quelle est la pauvreté pour vous cette année-ci? Pauvreté de fête. Quel est l'arrachement dernier que Dieu vous a demandé de faire? Il faut qu'on remette ça très en lumière. Et cette pauvreté de fête, ces pauvretés de fête que nous constatons et que nous offrons, il faut les porter avec beaucoup d'amour. Dans la vraie pauvreté intérieure. Et la pauvreté intérieure, c'est justement notre cœur qui s'ouvre à la promesse de Jésus. C'est notre cœur qui s'ouvre à cette promesse de Jésus. Je vous enverrai le paraclet. Par la pauvreté, on crie vers la promesse. On appelle la promesse. Et la promesse alors vient. Elle devance. Toujours, ce qu'il faut se rappeler, selon l'évangile de Jean, va vers les pauvres. Et Jésus, mu par le paraclet, va vers Jean-Baptiste et non pas vers ses lévites et ses prêtres qui venaient de Jérusalem et qui étaient venus interroger Jean-Baptiste au début de l'évangile de Saint Jean. Ses lévites et ses prêtres ont des galons supérieurs à Jean-Baptiste. Si Jésus avait respecter la hiérarchie, n'est-ce pas? Il aurait dû aller d'abord aux Lévites, aux prêtres. Il était Jean-Baptiste, qui était rien, qui était le laïc pieux du temps, prophète, mais un laïc pieux, très très pieux, vêtu très pauvrement et vivant dans une très grande pauvreté. Jean-Baptiste. Et Jésus va vers Jean-Baptiste et non pas vers les Lévites et les prêtres. Ça en dit très long, ça, vous voyez. Alors, soyons ces pauvres pour que l'Esprit Saint puisse venir auprès de nous. Et appelons l'Esprit Saint pour creuser en nous une nouvelle pauvreté. Parce que ce Père des pauvres ne vient que pour les pauvres, pour ceux qui reconnaissent leur pauvreté. pauvreté. Et pauvreté de fait, je ne sais pas, il y a des tas de pauvretés de fait, chacun d'entre vous. On peut s'irriter devant une pauvreté de fait. On peut être de mauvaise humeur. On peut inventer la revendication. Toutes les pauvretés de fait appellent la revendication. On peut inventer la théologie de la libération. Devant les pauvretés de fait, devant les injustices, on peut inventer tout ça. Et on peut aussi, devant les pauvretés de fait, vivre pauvrement ces pauvretés de fait. Les vivre en s'en servant. Pour appeler l'Esprit Saint. C'est la manière la plus noble et la plus grande de vivre de ces pauvretés de fait. Je crois que c'est la seule manière qui satisfait notre cœur. Toutes les pauvretés de fait. Toutes ces pauvretés de fait doivent être pour nous le moyen divin d'ouvrir tout grand notre cœur à l'appel de l'Esprit Saint. À l'appel de Jésus sur nous. Je crois que c'est les deux grands aspects sur lesquels nous devons vivre cette retraite. Et quand on vit cela, c'est merveilleux parce que ça nous purifie. Ça nous dépouille de nous. L'Esprit Saint n'a pas les mêmes goûts que nous, heureusement. Parce que si l'Esprit Saint avait les goûts de notre voisin, voyez ça. On serait toujours en seconde place. Tandis que l'Esprit Saint est au-dessus. L'ego de Dieu. Il désire nous faire entrer profondément dans son amour. Et c'est lui qu'on doit contempler pour lui-même comme étant l'amour dans toute sa subtilité divine et dans toute sa profondeur divine. En définitive, l'Esprit Saint se donne comme une personne. Et donc il veut qu'il soit reçu comme une personne. Et pour que l'Esprit Saint soit reçu comme une personne, il faut que nous soyons totalement donnés à l'Esprit Saint. Et que ce soit lui qu'on contemple. Trop facilement, voyez, on use de l'Esprit Saint. Parce qu'on ne regarde que les dons de l'Esprit Saint. C'est très beau, c'est très grand d'user des dons. Mais il y a un petit danger. Les dons sont faits pour qu'on vive de l'Esprit Saint lui-même. Comme étant la troisième personne de la très sainte Trinité. Comme la personne qui nous est donnée par Jésus. Et dont nous devons vivre. Alors il faut demander cette grâce à la Vierge Marie. Demander cette grâce de pouvoir contempler vraiment l'Esprit Saint. Vivre d'une expérience nouvelle avec l'Esprit Saint. Comprendre que lui veut vivre au plus intime de nous-mêmes. Lui qui scrute les profondeurs de Dieu. Veut nous entraîner dans ces profondeurs divines. Alors il faut que nous demandions de nous entraîner très loin, sous son pénage, comme l'aigle, et que nous puissions vivre tout proche de lui. Demandez cela pour vous. C'est comme un grand renouveau.